Il a déjà plus de 30 ans. Maintenant, il est autonome. Hein? Mais quand ils étaient petits, sous notre responsabilité, on les amenait à la prière. La parole de Dieu nous dit « Instruis l'enfant ». Et c'est tout un programme. Et nous devons, étant que parents, semer dans la vie de nos enfants. Ne comptez pas sur l'assemblée pour tout faire. Non, Dieu nous a donné des enfants et c'est à nous de les éduquer, de les enseigner. Ils viennent ici, on ne va pas les laisser dans la distraction, on va leur donner quelque chose, mais c'est d'abord dans la famille. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à méditer sur l'enseignement qui est très long. Je ne crois pas qu'on va le, on pourra le terminer. C'est sur l'intimité avec Christ. L'Église de Jésus-Christ doit être connectée dans l'intimité avec Christ. Alors c'est à deux niveaux, d'une manière personnelle et après d'une manière collective. Voilà. Alors, le premier point, c'est le cœur, la clé principale de l'intimité avec Christ. Nous avons commencé à aborder cela. Le deuxième point, c'est de demeurer dans l'intimité avec Christ et le Saint-Esprit. Le troisième point, c'est la connaissance dans l'intimité. Quand nous sommes dans l'intimité avec Christ et en demeurant dans la parole, le Saint-Esprit fait un travail en profondeur dans notre cœur et nous pouvons accueillir une connaissance de Christ. Il y a plusieurs niveaux d'intimité et de connaissance. Il n'y a pas d'intimité sans la connaissance de Christ et du Saint-Esprit. C'est impossible. Si nous voulons connaître Christ, nous devons rentrer dans cette intimité et travailler, laisser le Saint-Esprit aussi nous enseigner. Le Seigneur parlait ce matin à quelqu'un au niveau du pardon, peut-être à plusieurs. C'est le psaume 36 et le verset 9 qui dit, ou 36-10, cela dépend des Bibles, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Cela veut dire, pour connaître Dieu, Dieu a besoin de se révéler. Et de tout temps dans l'histoire de l'humanité, depuis que Dieu a créé l'homme, son désir, c'est de saisir le cœur de l'homme. Nous ne pouvons pas servir Dieu, marcher avec Dieu, si nous n'avons pas établi ce pont très important entre lui et nous et entre nous et lui. L'intimité dans la croissance, on l'a vu, ça c'est dans Jean 15, où Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et toujours dans Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je suis attaché à Christ? Est-ce que je demeure avec Christ? Dans l'intimité, dans la croissance, elle est à un niveau, je l'ai dit, d'une manière personnelle et d'une manière collective. Je dois grandir dans ma relation avec Christ, dans mon intimité avec Christ, et après, dans la croissance de l'Église. Et c'est dans Jean 15 qu'il nous parle et que tout cela a été développé. Mardi dernier, nous avons vu. Pour ceux qui étaient là, laissez-moi voir les mains de ceux qui étaient là. Je les connais. Voilà. Et il manquait beaucoup de personnes. Vous avez loupé quelque chose de bon. C'est l'intimité dans la prière. Connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois personnes qui forment une seule personne, ont des attributs et nous avons besoin de les connaître dans l'intimité de la prière. Amen. Et ce matin, nous allons voir, méditer pour notre édification personnelle, toujours sur le cœur. Le cœur est la clé principale de l'intimité avec Christ et le Saint-Esprit. Amen. Pardon. Pas pratique avec le masque, hein? Alors, nous allons étudier ce matin la vie d'un homme que j'ai cité la dernière fois. Cet homme, c'est le roi Salomon. Et cet homme, c'est le haut niveau. Et aucun de nous, aucune personne sur la planète n'a été comme cet homme. S'il y a des hommes sur la planète qui sont riches, mais lui, il n'a pas reçu seulement la richesse, mais il a reçu la sagesse, la gloire, la bénédiction de Dieu dans sa vie, l'approbation de Dieu dans sa vie. Et cet homme m'intéresse, et cet homme doit nous intéresser, et cet homme, nous allons examiner sa vie. Et nous allons voir pourquoi cet homme, avec tout ce que Dieu lui a donné, il a quand même fini les mains vides. Quand on lit son récit, sa biographie, il a écrit 3 livres, les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et nous voyons que tout au fil de sa vie, c'est un homme qui va s'éloigner. Son cœur, je suis avec le cœur, son cœur va s'éloigner de Dieu. Et c'est un danger pour l'Église d'aujourd'hui. C'est un danger pour chacun de nous, d'une manière personnelle ou collective. Et c'est pour cela que nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Une chose est que nous ayons un cœur tout entier au Seigneur, pas un cœur partagé. Dieu ne veut pas de cœur partagé. Non, c'est soit que nous sommes avec lui ou nous ne sommes pas avec lui. Nous devons faire un choix et nous devons trancher. Alors, j'ai choisi plusieurs textes que nous allons lire ensemble pour nous parler, pour parler à notre cœur. Le premier, c'est Salomon qui l'a écrit, c'est dans Proverbes, le chapitre 4 et le verset 23. C'est un texte que vous connaissez très bien. Alléluia. Il nous est dit, Proverbes 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur, nous savons que l'homme est en trois dimensions. Il y a l'enveloppe que vous voyez, et dans cette enveloppe, il y a un cœur et il y a un esprit. Mais dans cette enveloppe aussi, il y a un homme spirituel. Et cet homme spirituel a un cœur. Garde ton cœur. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent venir polluer, rendre trouble notre cœur, ou qui peut nous troubler, ou qui peut nous séparer du Seigneur. Alors, c'est lui, Salomon, qui a non seulement prononcé ces paroles, mais qui a écrit ces paroles. Et ce matin, nous devons prendre en compte cela. Alors, s'il y a le positif, il y a aussi le négatif. Le négatif, c'est dans Matthieu, le chapitre 15 et le verset 19. Matthieu, pour ceux qui prennent des notes ou qui cherchent, Matthieu, chapitre 15, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Alors, nous voyons ici le positif et le négatif. Ce matin, l'Esprit de Dieu disait à quelqu'un, il faut que tu pardonnes. C'est du cœur. Et tant qu'on ne pardonne pas, on n'est pas guéri. Même Dieu, comprenez ce que je dis, Dieu a su tourner la page. Et il faut que nous ayons cette force pour tourner la page dans notre vie. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tourné la page d'une certaine manière, qu'il a planifié un plan de salut pour sauver l'homme. C'est Dieu. À plus forte raison, nous qui sommes des humains, nous devons écouter la parole de Dieu, prendre ce qui est bon pour notre édification personnelle et tourner la page. Alors nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que l'ennemi, lui, a tissé tout un réseau au niveau spirituel, immoral, avec le péché, pour polluer le cœur de l'homme, pour l'empêcher de comprendre et de saisir les vérités de la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes venus au culte et tous nous avons vu qu'il y avait du brouillard. Le brouillard, la route est là, mais il y a du brouillard. Je ne sais pas si, qui sont ceux qui ont eu du brouillard? Levez la main. Voilà, bon, tous on a eu le brouillard. Alors, la route est là, mais il y a du brouillard et nous devons avancer. Alors, quand on connaît la route, c'est une très bonne chose. On sait que la route, elle est sinueuse, là ça tourne, là c'est dangereux, on ralentit et on avance. Et c'est la même chose pour notre cœur. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous allons dévier, nous allons passer à côté de tous les pièges que l'ennemi pourra mettre, envoyer dans nos pensées. Parce que l'ennemi travaille au niveau de la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, ou plutôt l'esprit de l'homme, est devenu un champ de bataille. Et c'est à ce niveau-là que nous devons veiller. Le psalmiste nous dit, ou c'est l'apôtre Paul qui nous dit, « Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et louant Dieu de tout votre cœur. » Si nous voulons avoir une très bonne relation et qu'il y ait de bonnes choses dans notre cœur, voilà la recette. Le Seigneur va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'élane pas de ton cœur, de ta bouche. Bon, on l'a lu, hein, que c'est de la bouche, que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. C'est lié. Le Seigneur lui dit, médite-le jour et nuit afin de réussir. Tous nous voulons réussir, mais nous devons laisser la parole de Dieu nous imprégner dans notre vie. Que ce soit dans la vie familiale, dans la vie de l'Église, dans la vie professionnelle, la Bible est un trésor immense. La Bible nous montre aussi comment réussir dans la vie professionnelle. La Bible nous donne aussi des secrets. Alléluia. Et non seulement ça, Dieu peut poser sa main sur ce que nous faisons pour réussir et aller de l'avant. Nous pouvons voir dans la Genèse aussi, le cœur de Dieu a été attristé parce que Dieu est esprit, mais Dieu aussi a un cœur. C'est dans Genèse, le chapitre 6 et le verset 5, il nous est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6:6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu a un cœur. Et toi et moi, nous devons ne pas affliger par notre comportement, par nos pensées, par notre parole, par notre façon de vivre, nous pouvons attrister le cœur de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce qui a attristé le cœur de Dieu? Ce n'est pas Satan, c'est l'homme. Et aujourd'hui, dans cette génération dans laquelle nous vivons, le cœur de Dieu est attristé parce que Dieu avait posé des bornes et un code de vie pour l'homme, dans la société, pour les couples. Et nous voyons que tout cela a été balayé, déplacé, et tout cela attriste le cœur de Dieu. Pour avoir une relation avec Dieu, c'est le cœur. Tout parle du cœur. Dans le couple, c'est le cœur. Hein? Si avec mon épouse, bon, tout n'est pas parfait, disons vrai, nous avons des points de vue différents, mais nous devons avoir un cœur qui s'aime, un cœur qui est bon l'un pour l'autre. C'est le cœur. Et pour Dieu, c'est la même chose. Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Dieu ne veut pas, comprenez ce que je dis, je le dis d'une manière brutale, mais pour que nous puissions comprendre aussi, parce que quelqu'un peut croire en donnant de l'argent à Dieu, Dieu est satisfait. Non. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est une grâce que Dieu nous donne de posséder l'argent ou de gagner l'argent sous la terre. Mais ce que Dieu veut en premier, ce n'est pas ton argent. Ce que Dieu veut en premier, c'est ton cœur. C'est à partir de ton cœur qu'il pourra établir une vraie relation avec toi et toi avec lui et bâtir quelque chose de solide et de durable. On va lire le texte principal qui va, je dirais que je vais tourner tout autour de ce passage. C'est dans 1 Chronique, le chapitre 28 et le verset 9. Cela nous parle de deux hommes, cela nous parle d'un père et d'un fils, de David et de Salomon. 1 Chronique 28, le verset 9. C'est David qui parle à son fils. David arrive à la fin de sa vie et Salomon a été choisi pour régner à la place de David. Et son père va lui parler. C'est bien quand un père parle, hein? Et il faut avoir une oreille attentive, disponible pour écouter ce qu'il dit. 1 Chronique 28, le verset 9. Je vais doucement, hein, parce que je sais que je n'irai pas jusqu'au bout. Et c'est David qui dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est un père qui parle à son fils, mais le père dit à Salomon des vérités de la part de Dieu. David lui dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Alors, si nous regardons la vie de David et la vie de Saül, ou les autres, nous allons voir qu'il y a des clichés, que David a fait des choses qui étaient inadmissibles, que Saül n'a pas fait. Mais Saül n'était pas un roi obéissant. Saül n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. David l'y est. Parfois dans l'église, nous pouvons voir quelqu'un qui est là, mais qui a un cœur pour Dieu. Il a peut-être des défauts, il a peut-être commis des erreurs, mais il a un cœur pour Dieu, il va accomplir les plans et la volonté de Dieu. Et puis il y a une autre personne qui est là, qui est tranquille, qui est bien habillée, qui n'a pas de défauts, on ne voit pas de défauts en lui, mais qui n'accomplit pas les plans et la volonté de Dieu. D'après vous, qu'est-ce que Dieu regarde? C'est ça. Et la vie de David a été ça. David a été un homme qui a accompli toutes les volontés de Dieu. Saül s'opposait. Saül n'obéissait pas. Saül faisait le contraire. Et ce matin, si tu es dans ce cadre-là, tu n'es pas agréable au Seigneur. Le Seigneur te dit qu'il faut pardonner. Tu ne pardonnes pas, mais tu iras où? Le Seigneur te dit qu'il faut obéir à sa parole. Tu ne veux pas obéir, mais tu iras où? Il n'y a pas d'autre chemin. Alors David dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas tout. Et sers-le d'un cœur dévoué. Est-ce que je sers? Est-ce que le service que je fais, est-ce que je le fais pour un homme? Ou est-ce que je le fais pour moi? Ou est-ce que je le fais pour le Seigneur? Quel genre de serviteur je suis ou tu es ce matin? Est-ce que je suis un serviteur, je fais des choses, je vais lui dire, pour le pasteur Jean-Jacques, parce que je travaille avec lui, peut-être les autres, pour que les autres me voient bien. Ou est-ce que je fais les choses pour moi-même? Ou est-ce que je fais les choses pour Dieu? Ce matin, quel genre de serviteur es-tu? Connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué, sans réticence, sans partage, avec dévouement. Parce que David dit des choses qu'il a expérimentées. Il dit, car l'Éternel sonde tous les cœurs. Ce matin, Dieu est omniprésent. Ici, en Martinique, en Afrique, partout sur la planète, et Dieu pèse tous les cœurs. Ce matin, Dieu voit ton cœur. Dieu sait ce que tu penses de moi. Peut-être que moi, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Je vise personne, mais je parle à l'ensemble. Hein. Ne vous sentez pas visé. Hein? Comme ça, on ne va pas dire, oh, ben, le pasteur, il a visé quelqu'un. Non, je parle en général. Dieu pèse les cœurs. Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu as un cœur droit devant Dieu? Ça, c'est une chose. Et il pénètre tous nos pensées. Vous savez, parfois, on a des pensées. Beaucoup de pensées mauvaises envers l'un et l'autre. Et Dieu dit à Salomon, mon fils, si tu ne marches pas droit, Dieu va t'abandonner. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Il te rejettera pour toujours. Et un peu la finalité de mon message, c'est ça. Salomon est sauvé. C'est la grâce de Dieu. Mais tout ce que Dieu lui avait donné, il a perdu tout cela. La parole de Dieu nous dit que ce sont les petits renards qui détruisent la vigne du Seigneur et la vie des hommes. Ce sont les petits renards que nous laissons dans notre cœur, dans nos pensées, et qui viennent détruire l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Salomon devait dire à son père, et vous serez d'accord avec moi, il devait dire à son père de prier pour lui. Parce que David, la parole de Dieu nous dit que David a été un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui connaissait Dieu. Il a commis des erreurs, on ne va pas l'ignorer. Mais c'est lui qui a écrit le psaume 51. quand il a péché avec Bathsheba, cette femme qui n'était pas sa femme, et de cette femme est né un premier fils qui est mort, et le deuxième a été Salomon. Et Salomon connaissait la vie de son père. Quel enfant qui ne connaît pas la vie de son père? Parfois, ils nous connaissent tellement que si on fait un faux pas, ils sont là pour nous reprendre. Ils sont là pour nous corriger. Ils sont là pour nous dire, tu as fait ça, mais ça, c'est pas bon. Salomon connaissait la vie de son père David. Et cette prière que Salomon aurait dû faire, qu'il n'a pas fait, c'était de dire, papa, père, prie pour moi avant que je monte sur le trône. Il n'a pas demandé cela. Il va demander des choses que sans doute nous verrons plus tard, qui s'obtient par la prière. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a donné des choses que tu as prié, que tu es forcément en harmonie avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la planète qui possèdent des richesses, mais qui n'ont pas un cœur pour Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a vu comment son père a marché avec l'Éternel et tout ce qu'il a accompli. On trouve cela dans les Actes des Apôtres. C'est l'apôtre Paul qui va voir cette révélation que le prophète n'a pas eue. C'est Actes 13, 22. Il nous a dit, puis l'ayant jeté, il parle de Saül, il les a suscités pour roi David, auquel il a rendu témoignage. C'est Dieu qui rend témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu nous a choisis. Dieu nous a établis. Mais est-ce que tu accomplis les volontés de Dieu dans ta vie? Quelle est ta vie? Comment tu mènes ta vie? Nous avons été sauvés pour servir. Pour servir où? Pour servir dans l'Église, là où Dieu nous a placés, dans l'œuvre de Dieu. Et je me suis toujours dit, parce que je parle à moi-même parfois, s'il y a une âme à sauver là-bas ou une demi-âme à sauver là-bas, j'irai. Je vais obéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu es un homme, une femme qui accomplit ce que Dieu veut? Ou tu fais ce que tu veux? Dieu nous a donné une volonté pour faire ce que nous voulons. Ou pour faire ce qu'il veut. J'aime beaucoup ce chant qui dit Ô quel riche trésor, un cœur qui vit. Tu connais le chant, toi? Ce que Dieu dit, alléluia, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. La première erreur de Salomon, ou plutôt on peut dire la deuxième, c'est qu'il va laisser la présence de Dieu à Jérusalem pour aller à Gabaon. Alors l'histoire d'Israël et Gabaon, à Gabaon il y avait l'Arche de l'Alliance et le tabernacle, on offrait des sacrifices. Mais quand David est rentré à Jérusalem, il a amené l'arche, la présence de Dieu, à Jérusalem. Vous savez cette histoire d'arche que tout le monde cherche, que personne ne sait où elle est, elle a disparu. Et c'est, Dieu dit à Moïse, c'est là que je vais me rencontrer avec toi. Cette arche, elle était faite de bois, il y avait quatre branches pour la porter, c'était les Lévites qui devaient la porter. Dedans, il y avait des parchemins, des livres de Moïse. Et à chaque extrémité, il y avait deux anges. C'était des anges qui étaient battus d'or. C'était de l'or pur. Et Dieu dit à Moïse, c'est là que je vais te parler. À chaque fois que Moïse devait s'entretenir avec Dieu, c'était là. Et David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'arche à Jérusalem. L'arche symbolise la présence de Dieu, là où Dieu peut nous parler. Est-ce que tu restes toujours en connexion dans la présence de Dieu? Ou est-ce que tu peux aller chercher des solutions ailleurs? Parce que Salomon, c'est ce qu'il a fait. C'est vrai qu'à Gabaon, il y avait un haut lieu qu'on pouvait offrir beaucoup de sacrifices à Dieu. Et il est parti là-bas. Il laisse la présence de Dieu à Jérusalem pour aller à Gabaon. C'est vrai qu'il va faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'offrandes. Cela plaît à Dieu, oui. Mais ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que nous savons rester dans la présence de Dieu, dans l'intimité du cœur de Dieu? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens qui courent à droite, à gauche pour trouver je ne sais pas quoi qui n'existe pas? Est-ce que nous avons cette capacité d'obéissance de cœur et d'esprit de rester dans la présence de Dieu? Il y a un chant qui dit « Je me tiens dans la présence du Seigneur ». Dans la présence du Seigneur, parfois, c'est de nous asseoir. Moi, je m'assois, moi, et je parle au Seigneur, je parle au Saint-Esprit. Et j'écoute aussi, parce que Dieu a des choses à me dire. Dieu aussi a des choses à nous dire. L'Église doit développer cette attitude de cœur et se tenir dans la présence de Dieu. Ce matin, nous avons vécu un temps de louange, d'adoration fort. C'est bien, mais est-ce que ton cœur y était? Parce que la nuée peut descendre ici. Tu peux voir des miracles et des prodiges se produire ici. Tu peux tomber et rouler aussi sous la puissance de Dieu. Mais est-ce que ton cœur est attaché? Il y a des gens qui veulent voir des miracles, des prodiges, mais ils n'ont pas un cœur attaché à Christ. Ça ne sert à rien. Il faut dire des choses, ça ne sert à rien. Alors, Salomon va partir à Gabaon. Pendant plusieurs jours, il va offrir des sacrifices dans ce haut lieu. Et c'est pendant la nuit que Dieu va apparaître en songe à Salomon. C'est dans 1 Roi 3 et le verset 5. Et Dieu va lui dire, demande ce que tu veux. N'oublions pas que Salomon, c'était un puissant intercesseur. C'était un homme puissant dans la prière. Quand nous voyons la prière qu'il a prononcée pendant plusieurs heures, c'était un puissant intercesseur. Et il avait un groupe de louanges qui étaient là pour apporter la louange, pour proclamer la louange. Et c'est pendant la nuit que Dieu lui demande, que Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Mais Dieu cherche toujours son cœur. Dieu, ce matin, tu peux demander beaucoup de choses à Dieu que Dieu peut te donner dans sa grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu peut nous donner beaucoup de choses à cause de sa grâce. Mais est-ce que ton cœur, je suis désolé de marteler cela, mais je veux marteler cela pour que cela rentre dans ton cœur. Que tu ne dises pas un jour, oh, mais Seigneur, on ne m'a jamais parlé de ça. Le Seigneur te dira non, parce que ce que je dis là, c'est inscrit dans l'ordinateur de Dieu. Alors Dieu lui dit, demande ce que tu veux, et je veux te donner cela. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce passage. C'est pendant la nuit, c'est pendant qu'il dort. Cela veut dire que l'homme est tellement préoccupé par l'activité de son règne, de son ministère, parce que je connais des pasteurs, ils ont un agenda qui est plein pour une année, ou parfois pour 2 ans. Et Dieu est où dans tout ça? Ils sont préoccupés par leur ministère, plus d'entendre la voix de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planifier, hein. Je planifie un petit peu. Mais il faut rester à l'écoute de Dieu. Et quand on n'est pas à l'écoute de Dieu, C'est pendant la nuit que Dieu vient nous parler. Et ça, c'est anormal. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous devons avoir cette oreille attentive pour recevoir, pour entendre la voix de Dieu. Et c'est pendant la nuit, pendant son sommeil, que Dieu lui parle. Et je dirais que ça, c'est dangereux. Si tu n'es pas capable de discerner, d'entendre la voix de Dieu pendant que tu es, je ne sais pas où, chez toi, dans ton travail, Dieu nous parle. La Bible nous dit tantôt, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons avoir cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Alors, dans 1 Roi 3:9, il va demander à Dieu des choses que Dieu va lui donner. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Ah, c'est pour lui, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors il nous a dit, cette demande, toi dis, cette demande plus, cette demande de Salomon plus au Seigneur. Nous pouvons demander des choses au Seigneur qui est agréable. Dieu dit d'accord, mais Dieu, ton cœur, elle est où ton cœur? Je n'irai pas plus loin. Je vais m'arrêter là, je prendrai la suite plus tard. Et tout ce qu'il a demandé à Dieu, c'est pour lui. Donne-moi un cœur intelligent pour conduire ton peuple. Mais pas un cœur pour t'écouter et faire ce que toi tu veux dans ma vie, non. Et je vous encourage à lire la biographie de Salomon. Vous allez trouver ça dans le livre des rois, Proverbes et Chroniques. Et vous allez voir ce qui s'est passé dans sa vie. Cette demande plut au Seigneur. Et il faut faire attention. On peut demander des choses à Dieu, que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous donne. Mais est-ce que ton cœur, est-ce que tu as un cœur pour servir le Seigneur, pour servir les projets de Dieu? Ou est-ce que tu veux des choses pour toi-même? Vous savez, il y a des gens qui ont demandé des choses au Seigneur. Et le Seigneur donne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lui, il a prié selon les lois de la prière. La prière a des lois et des principes. C'est dans Matthieu, il nous a dit, Matthieu 7:7, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont les lois de la prière. Un homme qui se lève dans la prière peut demander à Dieu, appliquer les lois de la prière et recevoir. Et Salomon, c'est ce qu'il a fait. Mais il n'avait pas un cœur pour Dieu. Et c'est ce... On le verra la prochaine fois. Je vous ai déjà donné assez de nourriture. Et c'est ce qui va le perdre, le cœur. J'insiste dessus parce que c'est la vérité. C'est le cœur. Tout au long de la parole de Dieu, jusque dans l'Apocalypse, nous voyons que avec Dieu, c'est une histoire de cœur. L'histoire des vierges folles et sages, c'est une histoire de cœur. Si voici l'huile dans la lampe, mais d'abord un cœur qui n'était pas attaché au Seigneur. Et dans l'Apocalypse, ce que le Seigneur va reprocher à l'église de Laodicée, vous le connaissez, c'est une histoire de cœur, d'intimité avec lui. Il était devenu tellement riche, Dieu l'avait tellement béni qu'il était devenu aveugle, qu'il ne voyait pas la nécessité de s'attacher au Seigneur. Il croyait. Parce que les bénédictions et les grâces que Dieu peut nous donner peuvent nous aveugler. Ah oui. Je connais. Je connais des familles qui sont bénies. Mais ce n'est pas parce que tu es béni que tu es dans les voies de Dieu, ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens dans le monde qui ont plus que moi. Tu vois, moi j'ai une paire de chaussures, mais mon voisin il a 10 paires de chaussures. Je roule dans une voiture qui est bien, mais mon voisin a une voiture neuve. Je n'ai pas une voiture neuve. Et je veux dire quoi qu'il est plus béni que moi. Mais ce n'est pas parce que la bénédiction, ce n'est pas un signe qui démontre mon appartenance, un cœur avec Dieu. Ne nous laissons pas tromper par les choses et les richesses de la terre. Ce matin, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Alléluia. La prochaine fois, nous verrons la suite. Et je vous invite, je vous exhorte à lire le livre de l'Ecclésiaste. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier ensemble. Et sans doute ce matin, c'est une occasion une opportunité de te repositionner devant le Seigneur, de repositionner ton cœur. Parce que quand nous serons devant Dieu, nous ne pourrons pas dire, Seigneur, c'est ma femme ou c'est mon mari. Non. Devant Dieu, c'est personnel. Tu ne pourras pas dire c'est le pasteur Jean-Jacques ou le pasteur Alain ou c'est le pasteur Roger. Non. C'est chacun de nous d'une manière personnelle que nous aurons à répondre devant Dieu. Alors ce matin, tu peux peut-être, en laissant l'Esprit de Dieu te sonder. C'est David qui dit, quand David a compris tout cela, il va dire dans le psaume 39, 139 et le verset 23, Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est de revenir dans les plans et dans la volonté de Dieu. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de revenir. L'Église a besoin de revenir. Saint-Esprit, sonde les cœurs. Saint-Esprit, parle au cœur. Saint-Esprit, travaille sur cette parole qui a été semée dans les cœurs. Saint-Esprit, viens faire une œuvre de transformation dans les fondations dans notre vie, dans les profondeurs dans notre vie. Saint-Esprit, donne-nous la force, le courage, la détermination, la volonté de revenir au Seigneur et d'abandonner, d'enlever, de confesser ce qui n'est pas bon. Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. Viens nous façonner. Nous sommes l'argile dans les mains du potier. Ce matin, tu es l'argile dans les mains du potier. Et il veut façonner ton cœur. Il y a trop de choses qui sont rentrées dans ton cœur, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être épanoui, qui t'empêche de grandir dans la maturité avec Christ. Tu as besoin de déposer tout cela au pied de la croix. C'est à toi de le faire. Alléluia. Alléluia. Commence à prier pour ta vie. Alléluia. Jésus, commence à prier. Seigneur, viens. Viens nous toucher dans ce lieu. Viens nous toucher, Jésus. Viens toucher les cœurs. Viens faire une œuvre. Transformation. Oh Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Esprit du Dieu vivant. Révèle-toi. Révèle-toi, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Lord. Candaï de l'Ola. Sur le coude. Viens visiter ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple. Ce sont tes enfants, Seigneur. C'est ton église, Seigneur. Viens parfaire dans nos vies. Seigneur, viens faire ce qui reste à faire. Seigneur, donne-nous un cœur intelligent, un cœur pour te suivre, un cœur pour marcher dans tes voies, un cœur pour exécuter, Seigneur, tes plans et ta volonté. Seigneur, un cœur pour que nous soyons agréables à toi, Seigneur. Seigneur de gloire, alléluia. Jésus, alléluia. 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 Tu as laissé longtemps le péché dominer dans ta vie. Et ce péché que tu ne confesses pas te bloque, t'empêche d'avancer. Et cela est venu dans ta vie comme une forteresse. Tu dois confesser cela devant ton Dieu ce matin. Alléluia. 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 Je prie dans le nom de Jésus. Je brise les raisonnements. Je brise les forteresses. Je brise la puissance du péché dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce matin la libération dans ton cœur, dans ta vie, dans ton être tout entier, au niveau de ton esprit, de ton cœur, de ton âme. Je proclame la libération. Alléluia. Jésus te dit, vous connaîtrez la vérité, mais la vérité dans ton cœur, pas d'une manière intellectuelle, mais dans ton cœur. Et c'est cette vérité qui te rendra libre. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Jésus-Christ.